les architectes sous l'effet des évolutions environnementales. Donc, il y a déjà Champy qui travaille dessus, qui a montré qu'effectivement, de plus en plus, ça a porté atteinte à la cohérence de la profession. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, les bureaux d'études, ils interviennent dans deux choses, à deux niveaux dans le contrôle du métier d'architecte. C'est déjà par le cahier des charges environnemental. Ça a des contraintes, le cahier des charges, comme j'essaie de le montrer, contraint le travail des architectes. Et par ailleurs, ce que j'ai vu, sur mon côté de quartier, c'est que dans les équipes dans l'équipe de jury qui analysait les différents projets par lot, les différentes candidatures par lot, tous les projets, toutes les esquisses des architectes pour choisir les projets, les équipes d'architectes de promoteurs, tous ceux qui ne présentaient pas une morphologie type HQE, c'est-à-dire très simple, très autiste, qui présentaient trop de fenêtres, trop de surfaces vitrées et qui présentaient pas de toiture végétalisée, on était directement écartés. Donc ça, typiquement, les LAMO faisaient directement partie du jury et donc avaient fait un premier filtrage. Ensuite, sur la question sur la traduction, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que je ne l'ai pas mis assez en avant, et c'est un peu ce que j'ai essayé de montrer, que ce n'est pas seulement une question d'articuler des intérêts, c'est aussi les outils qu'ils développent sont relatifs à leur position de bureau d'études dans l'espace de bureau d'études, et que ce n'est pas qu'une question, et que derrière les enjeux techniques, il ne s'agit pas uniquement d'articuler des intérêts. Des intérêts économiques ou politiques, c'est aussi des intérêts économiques pour les bureaux d'études, pour se placer sur le marché des bureaux d'études, pour construire des outils qui vont leur donner une place privilégiée en tant que bureau d'études. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il ne s'agit pas simplement de ménager la chèvre, le chou, et que par contre, ce que j'essaie de montrer dans la question de la traduction, c'était que c'était des gens qui étaient capables, par rapport aux autres acteurs, ce sont des gens qui ont les ressources pour circuler entre les différents univers, et que c'est justement en mettant en forme ces intérêts dans des outils qu'ils développent pour se positionner en tant que bureau d'études qu'ils tirent, il me semble, une partie de leur pouvoir. Donc par contre, effectivement, donc, ce qui fait que, effectivement, c'est pas uniquement de faire des compromis, c'est aussi s'imposer en tant que bureau d'études dans des projets où sont rassemblés d'autres acteurs économiques et politiques, et avec des mécanismes que j'ai étudiés, où typiquement un des ressorts de cette médiation, c'était des techniques de freinage, d'information, de frein, où les bureaux d'études, lorsqu'ils voulaient s'imposer, arrêtaient de circuler l'information. Donc, je suis d'accord avec vous sur. C'est peut-être que j'ai mal présenté en tout cas la question de la traduction. Après, pour vos questions, je suis un peu. Toute ma thèse ne porte pas sur les bureaux d'études dans la qualification des logements. C'est une partie de ma thèse, mais dans un article, je ne pouvais pas tout aborder. Évidemment, les acteurs publics, je les étudie. Je n'ai pas eu le temps d'en parler ici parce que ça ne rentrait pas directement ou de manière trop latérale dans ma question, dans l'argument que je voulais défendre. Effectivement, oui, l'État, ou en tout cas les différents niveaux d'action publique, pilotage, les établissements publics, je les regarde, mais ce serait vraiment là. J'aurais pas le temps d'en parler. Nouvelle doctrine, ça imposerait de savoir ce qui change et je suis pas en mesure de le faire, donc je préfère pas répondre. Et quid de l'habitant, moi les habitants, je les vois que dans les modèles, dans les hypothèses, parce que j'étudie un projet qui est un projet qui a même pas été mis en chantier encore. Donc moi les habitants, ok, je les vois un petit peu dans mes réunions de concertation avec les ménageurs, et encore il n'y en a pas beaucoup, mais dans les discussions avec les promoteurs, il n'y en a vraiment pas. Quand des réunions entre ménageurs, promoteurs, bureaux d'études, ce n'est pas du tout des réunions qui sont ouvertes du tout. Donc oui, je ne les ai pas pris en compte dans ma. à part dans les usages qu'on projette d'eux, en particulier de ce que projettent les bureaux d'études, mais sinon je ne les vois pas du tout.
Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'une fois essayer de définir qu'est-ce que c'est qu'un éco-quartier.
C'est l'objet.
Un dispositif technologique de sobriété énergétique, donc si c'est que ça. Ça va pas plus loin. Il y a d'autres exemples en Europe qui montrent plus loin.
Catherine, alors merci à Alexandre de cette reformulation de la présentation. Je dois dire que c'est ça m'éclaire beaucoup en fait. Sur les trois raisons que tu évoques pour expliquer pourquoi effectivement cette position d'utilisateur est pas construite dans, me semble-t-il, dans le secteur du bâtiment. Il me semble qu'on peut les identifier les trois. Et ce que tu dis rejoint complètement une question que j'avais en préparant cette présentation, parce qu'en fait, voilà pourquoi j'avais pas pensé initialement présenter ce travail dans le cadre de cette journée, c'est que je me disais, moi j'avais donc cette enquête et j'avais donc cette série un peu classique de désajustement entre l'habitant et son dispositif technique, et je me disais, mais s'il faut convoquer une notion aussi lourde que l'acceptabilité sociale pour parler de dispositifs techniques qui ne fonctionnent pas, c'est qu'il y a quand même vraiment un problème. Et ce que tu dis, m'éclaire complètement, c'est effectivement il y a un problème. Il y a le problème de cette posture, cet habitant qui est pas pris en compte dans le secteur du bâtiment. Et c'est vrai que sur ces questions d'énergie, on est tout le temps en train de dire oulala, mais il faut absolument changer les comportements, et où toute la question de la transition énergétique, peut-être pas toutes, mais beaucoup de ces questions de la transition énergétique est pensée sous l'angle du changement des comportements. Le bâtiment, c'est quand même un cas un peu à part, où tout d'un coup, on accepte que le bâtiment, c'est quelque chose qui consomme de l'énergie, qui a une performance énergétique, et on accepte que la demande est effectivement construite par les objets techniques, par les cadrages marchands, etc. Sur les autres questions, je suis absolument d'accord avec l'idée de lire le tableau un peu. Effectivement, le moment de politisation, ce n'est pas un moment stable. Effectivement, je pense que soit les choses se transforment ensuite dans l'état du confort négocié, soit dans cette espèce de disjonction finale entre cette situation insatisfaisante où on a un bâtiment et un comportement et ça n'accroche pas. De là à dire que le confort négocié, ça néglige le rapport de force, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que si on prend l'exemple du débridage de la chaudière centrale, on voit bien comment les habitants s'imposent par rapport à une chaîne technique qui leur avait opposé la force technique de ce bouton centralisé caché dans une chaufferie, accessible uniquement en mobilisant toute une chaîne technique et avec aussi des oppositions de légitimité, c'est-à-dire vous êtes locataire, vous n'avez pas le droit de réclamer une augmentation du chauffage, c'est une affaire de propriétaire. Donc c'est pas parce que c'est négocié qu'il n'y a pas eu de rapport de force avant, qu'il n'y a pas eu l'installation d'un nouveau rapport de force. Puisqu'on est un peu dans cette veine-là, il y a la question de la désespérée story.
Ça tombe bien.
Sur la question de la critique, moi je crois que il ne faut pas sous-estimer la portée critique de ce que je raconte et Gaëtan.
Oui, c'est ça. L'ambiguïté peut être critique.
Montre le contre-exemple. Alors après...
Il faut être explicite.
Il me semble que c'est explicite et que c'est, ça a d'autant plus porté que c'est ce que ça porte sur des objets précis. Cela dit, moi j'ai pas la même expérience que Gaëtan, dans la mesure où les bureaux d'études qui étaient engagés dans la conception de ce bâtiment, c'est pas le bureau d'études qui était du côté de l'aménageur. Et le bureau alors si tu parles bien d'Enertech comme assistant maître d'ouvrage de l'aménageur de l'écoquartier, moi je trouve qu'il a fait donc ce rapport où il a mesuré les performances énergétiques d'un certain nombre de bâtiments et il est très critique vis-à-vis de lui-même et de ses intentions. Et donc je ne le trouve pas dans une situation de déni de réalité. Et en tout cas, les bureaux d'études qui étaient engagés dans la conception de ce bâtiment que moi j'ai étudié, c'en étaient d'autres qui avaient des positions, notamment le BEHQE qui avait une posture assez intéressante parce que justement le fait d'être sur cette question de l'environnement, ça le détechnicisait ou désectorisait par rapport aux bureaux d'études. Qui arrive avec ces techniques, la ventilation, les circuits d'eau, les circuits électriques, etc. Et que celui qui était chargé de l'environnement était capable d'avoir une vision plus globale et de comprendre un peu plus ce qui se passait dans les dans le bâtiment en fonctionnement.
De politiser la question environnementale.
Non, mais
c'est l'approche plus globale du HQE versus l'approche de l'énergéticien qui va compter les kilowattheures. Alors que c'est vrai que les bureaux d'études HQE ont aussi un regard sur le confort des utilisateurs, sur les ambiances, etc.